Voici le texte liturgique pour cette première messe de Noël. L'épître est tiré de Saint Paul à Tite. Très cher fils, la grâce de Dieu, notre Sauveur, est apparue à tous les hommes et nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent avec tempérance, justice et piété en attendant la bienheureuse espérance et la glorieuse apparition de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire en nous purifiant un peuple qui lui appartienne et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Voici ce que vous devez prêcher et recommander au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, fut publié un édit de César Auguste pour le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius commandait la Syrie, et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville. Joseph monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être recensé avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient en ce lieu, le temps où elle devait enfanter s'accomplit. Elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait aux environs des bergers qui passaient la nuit, au champ, veillant à la garde de leurs troupeaux. Tout à coup, un ange du Seigneur parut auprès d'eux, et une lumière divine les environna, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. » Et voici ce qui vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Au même instant, se joignit à l'ange une troupe de la milice céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les hauteurs et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. » Veuillez vous asseoir. Donc, bien sûr, ce soir, il n'y aura pas le cours sur les actes du magistère que je donne tous les mercredis. Jeudi, vendredi, messe à Padiès à 8h. Samedi, messe à 10h. Donc, je vous rappelle que pour les retraites, j'ai encore 2 places libres pour la première retraite d'octobre et 2 places libres pour la deuxième retraite d'octobre. Faites aussi attention pour ceux qui viennent un peu en avance à la messe de ne pas fermer la porte complètement parce que sinon les gens qui arrivent plus tard de l'extérieur peuvent plus rouvrir la porte. Donc laissez-la toujours légèrement entrouverte pour qu'on puisse rentrer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais vous souhaiter d'abord à tous une bonne et sainte fête de Noël. Que l'enfant Jésus de la crèche nous donne la paix. Cette paix dont le monde a tellement besoin. Et cette paix, nous n'oublions pas qu'il ne peut être donnée que par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de paix en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le seul justement qui puisse la donner. Et n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette paix et veut nous donner cette paix par l'intermédiaire de sa croix. Voilà ce qu'on a du mal à accepter. On a du mal à reconnaître que, encore une fois, derrière la crèche, derrière l'innocence de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a le bois de la croix qui est là. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà expliqué il y a 15 jours, je crois, que de même que la très sainte Vierge Marie a déposé son fils nouveau-né sur le bois de la crèche, elle a vite comprendre que 33 ans plus tard, elle allait devoir le déposer sur le bois de la croix. Et que de même, nous disent les mêmes pères de l'Église, qu'elle a enveloppé son nouveau-né de l'ange le jour de la naissance. Elle a vite compris qu'un jour, elle allait recevoir ce même corps exsangue de notre Seigneur Jésus-Christ, descendu de la croix dans le linceul. On voit justement la crèche, toute l'innocence de la crèche, toute la beauté de la crèche, toute la joie de la crèche. Il faut analyser, mes bien chers frères, et beaucoup de soin, les évangiles. Il y a trois messes, donc trois évangiles. Et la clé pour comprendre cette fête de Noël, elle est dans le troisième évangile. Ce troisième évangile est tellement important que c'est ce même évangile que le prêtre dit tous les jours, à la fin de chaque messe. Sauf aujourd'hui, pour la troisième messe, puisqu'il l'aura déjà dit à l'évangile de la messe. Et donc, à la fin de la troisième messe, le prêtre dira à la place l'évangile de l'Épiphanie. Dans cet évangile, il est dit, il est venu chez les siens, et les siens n'ont pas reçu. Il faut mettre en parallèle cette phrase avec une autre phrase, et pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Tout le mystère de Noël est là, mes bien chers frères. Notre Seigneur Jésus-Christ vient chez ses créatures. Celui qui nous a créés, celui qui nous a rachetés, on ne veut pas de lui. On le met dehors. On ne l'accepte pas. Pendant des siècles et des siècles, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, nous a préparé à le recevoir. Dans l'office de prime d'hier, de la vigile, et de la fête de Noël, l'Église donne même une date. Elle dit qu'entre la création du monde jusqu'à la fête de Noël, il s'est passé 5199 ans. Pendant plus de 5000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, a annoncé la venue de son Fils. Il a envoyé les prophètes, Isaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel. Il a envoyé les petits prophètes, les 12 petits prophètes, pour annoncer notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ finalement arrive aux temps accomplis, on ne veut pas de lui. Et le peuple juif va le crucifier. Alors, le peuple catholique va prendre la place. Mais nous ne sommes pas beaucoup plus brillants que les juifs, mes bien chers frères. Nous aussi, nous avons bien du mal à reconnaître l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ sur nous. Alors méfions-nous, n'oublions pas que si Dieu a dû rejeter son peuple élu, bien, il y a bien un peu ce qui se passe avec nous aussi si nous sommes incapables de reconnaître son autorité. De la même façon qu'il y a eu une transmission de la part du peuple juif au peuple catholique, si les catholiques ne sont pas fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu va chercher d'autres personnes. Parce qu'il ne veut pas que sa naissance, sa mort sur la croix, soit sans fruit. Alors il faut méditer sur cette parole, mes bien chers frères. Il est venu chez les siens n'ont pas connu parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Cette crèche, mes bien chers frères, il y a une crèche physique ici. Je viens d'y déposer l'enfant Jésus. Il y en a une autre au-dessus de l'hôtel, bien plus importante. Cette crèche au-dessus de l'hôtel, mes bien chers frères, c'est la crèche du tabernacle. Le même notre Seigneur Jésus-Christ, exactement le même Christ qui a été déposé sur le bois de la crèche par la très sainte Vierge Marie il y a 2000 ans, il est là, mes bien chers frères. Il est au tabernacle. Et chacune de nos âmes est une crèche. Et doit être une crèche. Et lorsque l'Église nous enseigne dans Saint Jean, il est venu chez les siens n'ont pas reçu, c'est à nous qu'est adressée cette phrase, mes bien chers frères. Notre Seigneur Jésus-Christ veut rentrer dans nos âmes. Il veut venir en nous. Est-ce que je le reçois? Est-ce que j'ouvre la porte toute grande pour accepter qu'il vienne dans mon âme? Et qu'il y vienne en maître? Puisqu'il est créateur et rédempteur. Est-ce que j'accepte que notre Seigneur Jésus-Christ soit reçu chez moi comme chez lui, puisque c'est lui qui m'a créé? Ou est-ce qu'au contraire, je pousse notre Seigneur Jésus-Christ dehors d'un revers de main en disant, écoutez, mon Dieu, vous êtes bien gentil, mais j'ai pas besoin de vous actuellement. Donc, posons-nous cette question. Est-ce que je suis actuellement capable de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je suis capable de le recevoir avec générosité? Dans la lecture des matines de la fête de Noël, il y a un texte extraordinaire de Saint Léon le Grand. et qui dit à ses fidèles, il y a 16 siècles, il disait, chrétien, souviens-toi de ta dignité et souviens-toi du prix de ton rachat. En contemplant cet enfant emmailloté dans le froid de la grotte de Bethléem, encore une fois, il faut voir derrière la croix qui arrive. Et il faut méditer sur ce sauvetage de chacune de nos âmes par la naissance et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dû passer par une pauvreté pareille? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ va devoir passer par la mort ignominieuse de la croix pour pouvoir nous sauver? Il n'aurait pas pu nous sauver qu'une marguerite tous les matins, ça aurait été nettement plus facile pour tout le monde. Il a voulu nous sauver par la croix. Parce que s'il nous avait sauvés en nous offrant une marguerite tous les matins, nous n'aurions jamais été capables de comprendre la gravité du péché. Par contre, lorsqu'on médite la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, quand on voit ce petit enfant couché dans la paille de la crèche, dans le froid, quand on revoit cet enfant devenu adulte, mourir sur la croix, au milieu des souffrances épouvantables de la passion, alors on comprend un peu plus, mes bien chers frères, le prix du péché. C'est ça la fête de Noël. La fête de Noël, c'est Dieu qui commence à payer le prix de nos péchés. Cet enfant innocent va offrir sa vie parce que nous voulons pas reconnaître nos responsabilités dans cette histoire. Il y a un texte de saint Augustin également magnifique sur le sujet. Il dit « Dieu devient homme pour que l'homme puisse devenir Dieu ». Évidemment, il ne faut pas comprendre ce texte de travers. Dieu s'humanise pour que l'homme puisse se diviniser. Dieu descend sur la terre ici-bas, prend notre nature humaine pour que nous puissions monter au ciel. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ vient ici-bas sur la terre. Alors il faut comprendre aussi les raisons de ces trois messes. Souvent les gens nous posent la question, monsieur l'abbé, pourquoi trois messes? La messe de minuit, que je célèbre maintenant, à 10h la messe de l'aurore, et à 18h ce soir, la messe du jour. Pourquoi trois messes? Eh bien parce que ces trois messes représentent justement ce chemin que nous devons parcourir pour aller au ciel. Première étape, ici-bas. Deuxième étape, la grâce. Troisième étape, la gloire. On commence ici-bas, on reçoit la grâce du bon Dieu pour continuer le combat, et on arrive à la gloire. Trois messes. La première messe, nous disent les pères de l'Église, célèbre la naissance temporelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, il y a 2000 ans, est vraiment né ici-bas sur la terre. C'est le mystère de l'incarnation. C'est la nature, la naissance historique humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette naissance humaine de notre Seigneur Jésus-Christ représente une autre naissance, ce qu'on appelle la naissance spirituelle. Notre Seigneur Jésus-Christ veut naître dans nos âmes. Cette naissance spirituelle est représentée par la deuxième messe, la messe de l'aurore. Notre Seigneur Jésus-Christ vient dans la crèche parce que de cette crèche, il veut pouvoir venir dans une autre crèche qui est la crèche de nos âmes. Chacun d'entre nous, nous avons une crèche à entretenir. Nous avons une crèche qui va devenir le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que le jour de notre baptême, nous sommes devenus les temples de Dieu. Et si notre Seigneur Jésus-Christ vient dans notre âme par cette naissance spirituelle, c'est parce qu'il veut nous emmener au ciel pour que nous ayons au ciel une naissance glorieuse. L'essence glorieuse, la naissance éternelle dans le sein de la Sainte Trinité. C'est symbolisé par la troisième messe, qui rappelle avec l'évangile de Saint Jean, qui rappelle justement que notre Seigneur Jésus-Christ naît éternellement dans le sein du Père. Oui, mais bien, chers frères, comme toutes ces choses sont belles, comme il nous faut méditer sur ces choses, notre Seigneur Jésus-Christ a droit de propriété sur nous. Qu'est-ce que j'ai fait pour lui rendre l'hommage qui lui est dû, parce que justement j'ai tout reçu de lui. Rappelez-vous toutes ces belles paraboles que notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser pour nous expliquer ces choses-là. Il compare chacune de nos âmes à un champ, à
à une vigne. Et il a passé du temps à préparer cette vigne, à préparer le terrain, à tailler la vigne pour que la vigne puisse donner du fruit. Et un jour, il vient chercher le fruit pour en faire un vin excellent. Au lieu de bonnes grappes, de belles grappes, qu'est-ce qu'il trouve? Des grappillons. Des grappillons amers, incapables de donner la moindre goutte de vin. Il y a une autre parabole un peu semblable qu'on trouve dans les évangiles, qu'on peut utiliser aussi pour utiliser, combien comprendre cette fête de Noël. Notre Seigneur Jésus-Christ nous parle d'un champ, d'une vigne. Alors la vigne a bien donné, a donné des beaux raisins, alors le maître du champ va envoyer des serviteurs pour récupérer le raisin et en faire du vin. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens qui s'occupent de la vigne, au lieu de donner le bon raisin au maître, battent les serviteurs qui sont venus récupérer ce raisin. Ils battent les serviteurs, ils les couvrent d'outrage et refusent de donner le raisin. Alors que fait le maître? Il dit, je vais envoyer mon fils, mon propre fils. Au moins, ils vont respecter l'autorité de mon fils, il va pouvoir récupérer le raisin. Donc, il envoie le fils, et qu'est-ce que nous dit l'évangile? Voilà le fils qui arrive, ils vont le tuer. Ils vont tuer le fils et voler le raisin. Alors, notre Seigneur, alors Dieu, le Père, va devoir envoyer, le Maître va devoir envoyer ses soldats pour détruire les villes de ces bandits. C'est notre histoire, mon bien cher frère. La crèche, c'est une vigne. Et notre Seigneur Jésus-Christ veut tirer de cette vigne un fruit qui va devenir nectar extraordinaire. De ce fruit extraordinaire qui va venir de nos âmes, notre Seigneur Jésus-Christ va transformer cette vigne en son propre sang. Donc, lorsque nous venons d'adorer l'enfant Jésus à la crèche, mon bien cher frère, faire très attention. D'adorer avec des yeux divins, pas d'adorer avec des yeux humains. Parce que si nous adorons avec des yeux humains, on comprend rien du tout. On voit un enfant, un bébé, enveloppé de l'ange. Imaginez quelqu'un qui vienne voir le roi des rois, qu'est-ce qu'il trouve? Un enfant enveloppé de l'ange. Il va se dire, mais qu'est-ce que c'est? Que peut-on faire avec cet enfant? Mais il faut venir adorer comme les rois mages, mes bien chers frères, des païens. Et pas rien qui cherche Dieu, c'est extraordinaire. Toute la beauté de la fête de l'Épiphanie, des païens qui cherchent Dieu. Ils sont pas baptisés encore, c'est saint Thomas qui les baptisera plus tard. Ils sont pas baptisés, ils cherchent Dieu. Ils arrivent, ils sont déjà en route. Ils n'arriveront que le 6 janvier, mais ils sont déjà partis. Ils arrivent à la crèche, ils voient cet enfant, ils voient l'humanité évidemment. Comme ils voient l'humanité, ils offrent la myrrhe, parce que la myrrhe était un parfum utilisé pour préserver les corps de la corruption une fois qu'ils étaient placés au tombeau. Donc ils reconnaissent l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas amené que la myrrhe, mes bien chers frères. Ils ont amené aussi l'encens. Parce qu'ils ont vu derrière cet enfant est Dieu. Des païens qui reconnaissent dans cet enfant le Fils de Dieu. Et alors, ils vont offrir l'encens. Cet encens qu'on utilise dans les messes solennelles, justement, qu'on brûle sur un charbon qui va donner un nuage odoriférant qui monte vers le ciel, une fumée odoriférante qui monte vers le ciel et qui représente la prière. Et non seulement ils reconnaissent l'homme, donc ils donnent la myrrhe, ils reconnaissent Dieu, donc ils donnent l'encens, mais ils donnent aussi l'or, mes bien chers frères. Parce qu'ils savent que cet enfant est roi. Roi par nature, parce qu'il est créateur. Roi par droit de conquête, parce qu'il est rédempteur. Ah, mes bien chers frères, donnons-nous aussi. Venons offrir à notre Seigneur Jésus-Christ en cette nuit de Noël. Nous devons venir offrir à notre Seigneur Jésus-Christ l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, l'encens et la myrrhe. Ne pas oublier justement que notre Seigneur Jésus-Christ veut recevoir de nous ces trois dons, mes bien chers frères. Il y en a un qui est relativement facile à donner. C'est le don de la myrrhe. Il est beaucoup plus difficile de donner aussi l'or, de reconnaître qu'il est roi, qu'il est mon roi, qu'il doit être roi de ma famille. Et encore plus difficile, bien sûr, de donner l'encens en reconnaissant qu'il est Dieu. Toute la révolution actuelle, dès que vous mettez le pied dehors, c'est ce qui se passe, c'est quoi? C'est la lutte, si vous voulez, de ceux qui reconnaissent, qui veulent que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi de sa création, roi de notre société, contre ceux qui veulent que l'homme devienne roi. Eh bien, Dieu s'incarne et est couché dans la crèche de Bethléem parce qu'il veut devenir le roi de sa création, le roi de sa société. Alors, mes bien chers frères, puisque nous sommes obligés de vivre dans un monde complètement paganisé, et de plus en plus paganisé, il faut aller réconforter notre Seigneur Jésus-Christ et venir se mettre à genoux devant sa crèche. Et savoir s'offrir à notre Seigneur Jésus-Christ en disant, « Mon Dieu, je vois en vous qu'un petit enfant couché dans la crèche enveloppé de l'ange, mais je sais que vous êtes roi, je sais que vous êtes Dieu. » Et puisque je sais que vous êtes roi et je sais que vous êtes Dieu, je sais que je n'ai rien à craindre puisque Dieu peut tout. Évidemment, si je ne vois dans l'enfant couché dans la crèche qu'un homme, alors oui, on peut se décourager. Mais si nous savons et si nous avons réalisé et compris que cet homme est à la fois Dieu et à la fois roi, qu'il est le grand roi, à ce moment-là, mes bien chers frères, tout est possible. Et donc, il faut aller puiser dans la fête de la nativité, la fête de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, toute cette force, cette paix que Dieu seul peut donner. Ne nous laissons pas décourager, mes bien chers frères, quand nous voyons toutes ces horreurs qui viennent de Rome, toutes ces horreurs en politique, toutes ces horreurs dans les changements, la destruction de la famille chrétienne, la destruction de toute la civilisation chrétienne à laquelle nous assistons sous nos yeux, mes bien chers frères. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et ce Dieu qui a voulu unir sa divinité à notre humanité, il a un pouvoir extraordinaire. Alors, mettons-nous au pied de la crèche et n'oublions pas qu'au pied de la crèche, au pied de la croix, parce que la crèche est la croix, il y a la Sainte Vierge, hein. Le bon Dieu a voulu nous donner la Sainte Vierge. Il a voulu mettre au pied de la crèche, la créature la plus douce qu'il ait jamais créée. Il a mis la très Sainte Vierge Marie, justement, pour que nous décourageons absolument jamais. Nous n'avons pas le droit de nous décourager parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Je comprends que les païens puissent se décourager. Je comprends que des gens qui ont perdu la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ se découragent. Mais nous, si nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est notre roi, si nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu, si nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est roi par nature et par droit de conquête, comme créateur et comme rédempteur, alors nous savons que la clé, qui ouvre la porte du paradis. Si nous avons compris ça, tout est possible. N'oublions jamais, mes bien chers frères, que le monde peut crier, le monde peut hurler, le monde ne peut pas détruire la divinité de notre Seigneur. Le monde ne peut pas détruire la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ parce que Dieu est créateur de cette humanité. Alors, ne nous décourageons jamais. Je pense qu'il faut vraiment utiliser cette fête de Noël, mes bien chers frères, pour nous obliger à ne pas juger les choses sur les apparences. Humainement parlant, qu'est-ce que cet enfant peut faire? Rien. Mais si nous réalisons que cet enfant est Dieu, que cet enfant est roi, alors derrière cette humanité qui semble absolument incapable de faire quoi que ce soit, il y a un grand roi, il y a Dieu qui peut tout faire, parce qu'il est Dieu. Et à ce moment-là, que peut le monde contre Dieu lui-même? Le monde peut aboyer comme un chien, il ne peut rien faire. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est plus fort que le monde. Notre Seigneur Jésus-Christ est plus fort que le monde. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, de nous aider à ne jamais, jamais, jamais nous décourager. Même si les temps sont difficiles, même si nous avons des tentations terribles, même si nous avons des chutes, même si nous avons des péchés, N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ se fait toute petite enfant pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour chacun d'entre nous. Et plus nous sommes pécheurs, plus nous avons forcé notre Seigneur Jésus-Christ, plus nous devons utiliser cette miséricorde infinie que notre Seigneur Jésus-Christ a préparée précisément pour les pécheurs. Voilà pourquoi il est venu. Alors ne nous décourageons jamais et demandons à la très sainte Vierge Marie de nous prêter l'enfant Jésus. Qu'elle le place aussi dans nos mains, dans nos bras, pour que nous puissions nous aussi le bercer. Comme ont dû faire les bergers, comme ont dû faire peut-être les rois mages. Ils ont dû prendre l'enfant Jésus, l'embrasser et réaliser ce petit enfant de rien du tout. Il est fils de Dieu. Ne faisons pas comme Hérode qui veut chercher l'enfant pour le tuer. Ne faisons pas comme les scribes et les pharisiens qui vont rejeter notre Seigneur Jésus-Christ. Venons adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Venons embrasser ses pieds bénis, ses pieds sacrés, pour nous rappeler que si sans Dieu nous ne pouvons rien faire, avec lui nous pouvons tout faire. Parce qu'il est Dieu et qu'il est Dieu jusqu'à la fin des temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.